que de vivre des moments comme ceci, de venir dans la maison du Seigneur et de vivre des temps de cœur à cœur avec Dieu, de rencontre avec Dieu. Un moment béni sous le regard de Dieu surpasse tant et tant d'efforts humains, acharnés et stériles, un moment dans sa présence. Et c'est la bénédiction. Nos cœurs sont relevés, notre vision est rassurée, nos forces sont rétablies. Alléluia. Que Dieu continue de nous bénir ce matin. Il le fait déjà. Et cette prière que nous venons ensemble de chanter avec sincérité, Dieu veut l'exaucer. Il veut effectivement faire descendre son Saint-Esprit sur ce rassemblement et sur ton cœur, sur ta vie en particulier. Voilà, je voudrais vous inviter à faire une lecture. Alors certes, elle est un petit peu longue, mais c'est un récit très fort, très captivant dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 3. On va lire ensemble les 20 premiers versets de ce chapitre. Deux Rois, chapitre 3 et dès le verset 1, Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi, attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ses 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Amen. Vous l'avez certainement lu, ce récit frappant qui nous met en présence de trois rois qui sont en marche pour se battre contre le roi de Moab. Et j'ai intitulé ce message, frères et sœurs, j'ai intitulé ce message de la manière suivante. Les conséquences bénies d'une église unie entre les mains du Saint-Esprit. Parce que c'est le message très fort qui se dégage de tous les événements que nous venons de lire et qu'on va essayer de commenter, apportant un éclairage spirituel. Aujourd'hui encore, en 2023, ce titre, nous pouvons le vivre, les conséquences bénies d'une église unie entre les mains du Saint-Esprit. L'histoire commence très mal. Elle commence par l'intronisation d'un mauvais roi, Joram, à l'image de son mauvais père Achab. Ça commence par toute une période d'apostasie, d'idolâtrie, de choses qui suscitaient de l'irritation au cœur de Dieu. Ça commence mal. Ça commence par trois rois qui se mettent ensemble pour faire la guerre. Ça commence aussi par ce roi Josaphat qui était, lui, un roi craignant Dieu, mais qui, malgré ses 18 ans d'expérience de roi, est resté influençable. Les erreurs de son passé ne l'ont pas instruit. Il ne tire aucun bénéfice des épreuves passées. Il recommence les mêmes erreurs, parce que quand Joram lui propose de venir avec lui, Achab, bien avant, lui avait fait cette même proposition et ça lui a coûté très cher, mais Josaphat recommence les mêmes erreurs. Plaise à Dieu que nous soyons des chrétiens en progrès. Des chrétiens qui savent tirer de l'instruction, eh bien des erreurs, on peut tous en commettre, mais l'important c'est qu'à l'école de Dieu, nous puissions retirer des instructions de nos erreurs pour ne pas recommencer. Josaphat recommence. Et c'est pourquoi, acculé par les circonstances, après 7 jours de marche accablante, il manque d'eau, ils sont dans un état vraiment tout proche, ultime, avant de défaillir et de mourir dans le désert. Et puis, une étincelle d'inspiration vient et Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici par lequel nous puissions consulter Dieu? Ah, enfin, et seulement un peu sur le tard, mais quand même, on se dit que ça serait quand même bien de chercher le secours auprès du Seigneur. Et ce n'est pas le roi Joram, mais c'est un serviteur, là, un subalterne dans les rangs, qui dit, si, moi je connais un véritable prophète, pas un prétendu, pas un autoproclamé, mais un véritable prophète. La parole de Dieu est avec lui. Il s'agit d'Élisée. Et donc les trois rois arrivent et ils trouvent un prophète en colère. Oui, ça existe. Et les premiers propos qu'Élisée leur tient est dissuasif, très très clair. Il apporte un témoignage très rude mais justifié à l'encontre de Joram. S'il n'y avait pas Josaphat, je ne te regarderais même pas, toi. Et puis brusquement, il se passe une démarche surprenante surprenante, Élisée demande qu'on fasse venir un joueur de harpe. Et il y a comme cela, frères et sœurs, dans les récits de l'Écriture, et en particulier dans l'Ancien Testament, des éléments surprenants, étonnants, mais qui ont une signification spirituelle. Par exemple, il a fallu que Élisée un jour demande qu'on lui apporte un plat avec du sel pour assainir les eaux impropres de Jéricho. Il a fallu que on produise un peu de farine au même Élisée, lorsque dans la grande marmite, il y avait le potage empoisonné, la mort est dans le pot, et un peu de farine, et il y a un miracle qui se produit. Un peu plus tard, il a fallu que le même Élisée dise « Apportez-moi un bout de bois », et alors que le fer de hache et avait plongé dans l'eau du fleuve, eh bien, Élisée jette ce bout de bois, et le bout de bois fait surnager le fer. Quel miracle! Bon, pourquoi Dieu passe-t-il par des démarches semblables pour nous enseigner? Il y a une signification spirituelle. Et quand Élisée, devant la demande pressante de ces trois rois, fait venir un joueur de harpe, on peut s'étonner. Mais le récit nous montre que c'est à partir de ce moment-là, essayons d'imaginer, on va faire un arrêt sur image. Il y a le joueur de harpe, il s'installe avec sa harpe et il est en train de jouer. Et la Bible nous dit, comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, et on va revenir sur pas mal d'éléments de ce récit. L'élément décisif qui a engendré un revirement de situation, c'est le joueur de harpe qui tient sa harpe et qui joue une musique, une mélodie d'une beauté, d'une harmonie. Visiblement, cette musique a réjoui le cœur de Dieu. Visiblement, cette scène du harpiste qui est en train de jouer avec sa harpe a déclenché dans les lieux spirituels la bénédiction. Et j'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions nous attarder quelques minutes sur cette image, le joueur de harpe qui tient sa harpe et qui, avec maestria, impulse les cordes et qui exprime une merveilleuse musique. Et j'aimerais comparer le joueur de harpe à la personne du Saint-Esprit, et j'aimerais comparer la harpe à nous tous. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous formions ensemble, Église d'Aubagne, une harpe qui va exprimer un son dont la conséquence immédiate est d'engendrer une abondante bénédiction. C'est sur cette image, et je prie le Saint-Esprit, je prie le Seigneur pour que vraiment notre intelligence à chacun, à commencer par moi-même, soit éclairée, que nous soyons convaincus qu'une prise de conscience spirituelle, personnelle, se produise en toi et en moi concernant l'enseignement qui émane de cette scène. La harpe, alors ce n'est pas un scoop, c'est un instrument à cordes. Vous allez tous dire jusque-là, on vous suit. Mais c'est un instrument à cordes complexe. c'est un cadre en bois sur lequel on a fixé solidement un grand nombre de cordes. Aucune corde ne ressemble à une autre. Il y en a des courtes, il y en a des plus longues. Chaque corde a sa spécificité. Chaque corde émet le son qui est le sien. Aucune corde ne peut prétendre se suffire à elle-même. Chaque corde est consciente d'avoir besoin de toutes les autres et toutes les autres reconnaissent l'utilité de la corde en question. Tu es une corde que le Seigneur a choisie, a pris en main et a fixée solidement sur le cadre en bois qui est ici le symbole de Jésus-Christ crucifié. C'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile éternel, c'est l'évangile de Christ, c'est l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et mes frères et mes sœurs, ce qui nous unit les uns les autres, c'est pas une concomitance d'opinion, d'affinité, de caractère, de personnalité. Ce qui nous unit, c'est la foi que Dieu a suscitée en chacun et qui nous fixe solidement sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Amen. Et je veux veiller, quant à la corde que je suis moi-même, à rester solidement fixé sur Christ, sur le tout est accompli de Christ, à placer ma foi dans le sacrifice unique et suffisant du Seigneur Jésus aux conséquences éternelles. Gloire à Dieu. Quand la maladie me perturbe, quand l'épreuve se dresse en chemin, quand des circonstances m'agitent, je suis fixé par la foi sur l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. Gloire à Dieu. C'est notre point commun, voyez-vous. Nous sommes tous comparables. Moi, j'ai pas été très très fort en mathématiques, quoique un petit peu quand même, mais juste moyen, un moyen plus. Mais en mathématiques, on m'a appris les règles, par exemple, des fractions. Nous sommes tous une fraction. Personne ici ne peut dire, moi c'est bon, je suis tout. Moi je suis la complétude. Non, non, non. Tu es une fraction. Mais c'est beaucoup déjà une fraction. Moi je suis une fraction. Vous voyez ? Et on m'a appris que quand on doit additionner des fractions, c'est impossible si elles n'ont pas le même dénominateur. On ne peut pas additionner 3/4 avec 2/3 comme ça, en l'état, c'est pas possible. Pas possible. Il faut transformer la fraction pour avoir le même dénominateur, le dénominateur commun. Donc, les 3/4, eh bien, ça fait 9/12. Et les 2/3, ça fait 8/12. Alors là, on peut additionner. 9/12 plus 8/12, ça fait 17/12, c'est voilà. Là, ça marche. Il ne pourra pas y avoir de communion fraternelle si nous n'avons pas le même dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est le Christ qui vit en nous. Gloire à Dieu. Le dénominateur commun n'est pas de nature culturelle, historique, psychologique, mais c'est Christ qui règne en chacun. En Jésus-Christ, la Bible le dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni scythe, ni barbare, toutes les caractéristiques, je dirais, humaines, terrestres, culturelles et psychologiques fondent pour laisser place au caractère de Jésus. Oui ou non? Et là, il peut y avoir une unité. Là, on forme une harpe qui va être en disposition pour émettre une harmonie, une belle musique à la gloire du Seigneur. C'est un instrument complexe. J'espère que ici tout le monde est attaché à Christ. S'il y avait quelqu'un, on est heureux de t'accueillir parmi nous, quelqu'un qui n'est pas encore dans cette position de foi, eh bien ce matin, Dieu veut aussi te choisir, hein? Et il veut te prendre, mon ami, et il veut t'amener à faire partie des rachetés du Seigneur. Le jour où tu as pris le baptême, tu as fixé ta foi et ta vie sur Jésus-Christ. Et une fois que nous y sommes, eh bien, moi je suis pas musicien, vous avez de bons musiciens ici, mais par définition, un instrument à cordes, ça se désaccorde. C'est pas vrai? Donc il faut le réaccorder en permanence. Les changements de température, la dilatation des cordes, les chocs, le temps, l'usure font que un instrument à cordes a besoin qu'on le réaccorde. J'ai même un mardi soir, quand j'étais jeune, assisté à la prestation de deux frères jumeaux, très très musiciens. L'un était guitariste classique et l'autre jouait d'une petite guitare latino-américaine. Et je le revois encore, cet instrument était tellement sensible que l'oreille fine du musicien décelait la nécessité de réaccorder pendant qu'il jouait. Ouais. Alors, il jouait et il réaccordait, il jouait et il réaccordait. Ouais. Eh bien, les cordes que nous sommes, frères et sœurs, ont besoin, sous la main du divin harpiste, le Saint-Esprit, de se laisser toujours réaccorder. Amen. Oh, que l'église d'Aubagne soit comme une harpe bien accordée. Alléluia. Par exemple, c'est le plus souvent le cas, les cordes peuvent être sous-tendues, insuffisamment tendues. Ça nous parle de toutes les circonstances où nous nous trouvons intérieurement dans un état sous-tendu. Dans quel état êtes-vous venu ce matin? La bonne tension ou bien fatigué? Découragé, déçu. Il y a tellement de facteurs qui ont comme incidence immédiate de nous placer en dessous de la norme de Dieu. Dieu nous veut ici et nous sommes là. Forcément, la musique que nous émettons ne va pas correspondre. Et l'expression de l'Église va en souffrir, ça va sonner faux. Alors, l'Esprit de Dieu, moi je crois que ce matin, nous vivons cette belle expérience, l'Esprit de Dieu travaille chaque corde. Est-ce que tu voudrais dire au Seigneur, Seigneur là, tu vois en ce moment, fait quelque temps, je lis plus ta parole parce que je me sens barbouillé spirituellement, ça va pas, je suis fatigué, mais Dieu ne veut pas te laisser comme cela. Hein. Il veut te visiter. Le divin harpiste veut retendre la corde. Et Dieu veut et peut t'animer d'un zèle rafraîchi, d'une motivation renouvelée. Gloire à Dieu. Moi, je prie pour que nous partions tous comme des cordes bien tendues, selon le diapason du Seigneur. Alléluia, hein, gloire à Dieu. Quelquefois, les cordes, elles sont surtendues. Bon, à Aubagne, ça n'existe pas, parce que les Aubagnais sont des gens pacifiques, paisibles. Mais au cas où quelqu'un serait venu ce matin, avec une surtension, hein, avec une accumulation de choses qu'il n'accepte pas, qu'il ne comprend pas, une nervosité, une pression, un stress, des contrariétés accumulées, l'anxiété, la peur, la frayeur, tout ce qui nous crispe intérieurement. Écoutez, si vous actionnez une corde trop tendue, ça va blesser les tympans, hein. Il n'y aura pas de musique harmonieuse. Voyez, la parole de Dieu dit par exemple qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries équivoques, choses contraires à la bienséance. Il y avait dans l'église d'Éphèse des bruits comme ça, des sons qui n'étaient pas du tout en correspondance avec ce que Dieu souhaite pour son Église, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Oh là là, que le Seigneur vienne bénir nos cultes et qu'on entende dans ce lieu des actions de grâce. Alléluia. Des louanges à Dieu. Dans ta chambre, tu peux déverser ton âme et faire connaître tes fardeaux et tes prières et tes soupirs et tes appels au secours. Gloire à Dieu. Dans les mardis soirs de prière, l'Église peut émettre la prière, l'intercession, la supplication. Mais le dimanche où nous venons ensemble pour célébrer notre Dieu, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Et qu'il y ait cette belle musique qui s'élève de l'Église. Alors le Seigneur, pour tous ceux qui sont surtendus, veut les rassurer. Il veut te détendre. Il veut baisser et assouplir ta crispation. Y a-t-il dans un cœur ce matin des griefs? Des griefs. Des blessures qui tardent à se cicatriser. Y a-t-il dans ton cœur des événements que tu as subis, que tu as vécu inconfortablement et qui enveniment ta joie, qui empêchent ton épanouissement? Alors, ce n'est pas les pasteurs qui ont ce pouvoir, c'est le divin harpiste, c'est le Saint-Esprit, celui que Jésus annonce comme étant le consolateur. Je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai un autre moi-même. Et il va influer forcément sur les dispositions de mon cœur. Combien de fois le Seigneur Jésus a interpellé ses disciples en disant, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Il y a en nous des pensées qui sonnent faux. Nous en sommes convaincus, mais c'est faux. Comme quoi, on peut se persuader de choses fausses. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir d'éclairer et d'enlever les pensées humaines en les remplaçant par la pensée de Christ, par la pensée de Dieu. Alléluia! Il y a en nous tellement de promptitude à de la réactivité, à des pulsions et des impulsions et des réactions. Et on a besoin d'être comme des cordes tendues au diapason du Seigneur. La bonne tension pour émettre la note juste. Gloire à Dieu. Que le Seigneur fasse de nous cette Église-là, frères et sœurs, parce que c'est à ce moment-là que la main de l'Éternel est descendue sur Élisée. Cordes sous-tendues, cordes surtendues. On peut aussi trouver les cordes abîmées. Et j'aimerais vous dire une chose. En général, moi j'ai fait de la mandoline pendant quelques années, quand j'avais une corde abîmée, je la jetais et je la remplaçais. Ce que Dieu ne fera jamais. Parce que Dieu répare la corde abîmée. Il ne la jettera jamais et ne la remplacera jamais. Oui, ce matin, le divin harpiste
a le pouvoir de réparer la corde que tu es. N'est-il pas écrit, il ne brisera pas le roseau cassé? Vous savez, ces roseaux, à l'époque, c'était des bouts de bambou, de roseau, quoi. On s'en servait pour écrire. Ouais, c'était les stylos de l'époque, hein, les stylos Bic de l'époque. On trempait dans l'encre et on écrivait. Et puis il arrivait que la pointe soit abîmée à force. Alors ça faisait des taches, des éraflures, ça faisait une vilaine écriture. Et qu'est-ce qu'on faisait? On brisait le roseau pour ne pas le réutiliser et on le jetait. C'était du jetable. On avait des paquets de 50 roseaux pour 2,50 € à l'époque. Hein. Ah oui, oui. Mais c'était sans valeur, sans valeur. Je suis ce roseau. Tu es ce roseau. À vue humaine, sans valeur. La sagesse du monde ferait qu'on va casser et jeter ce roseau. Mais la sagesse de Dieu est tout à l'inverse. Il ne brise pas le roseau cassé. Alors, si tu es comme un roseau cassé, ben, le témoignage que ta vie écrit a des éraflures. Hein. Ton témoignage est entaché. C'est pas net. Dieu veut réparer ce qui en toi est cassé afin que l'écriture devienne à nouveau nette, propre, et que ta vie raconte combien Christ est merveilleux. Est-ce que tu ne voudrais pas exposer ton cœur qui est en besoin de réparation afin que l'Esprit de Dieu apporte la réparation? Peut-être une prière qui te tenait beaucoup à cœur et qui, à ce jour, n'est toujours pas exaucée, a provoqué chez toi une blessure. Quand même, Seigneur, depuis le temps que sincèrement je te prie, rien ne se passe. Alors, là, la corde, elle commence à... Il y a des fibres qui ont lâché, il en reste plus que deux, et elle menace de craquer complètement. Bien, elle ne craquera pas, parce que le Seigneur a le pouvoir de la réparer, de t'encourager et de te rendre toutes les facultés d'une corde neuve et qui va continuer à émettre le son à la gloire du Seigneur. À ce moment-là, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Ça, c'est une image de l'onction de Dieu que Dieu veut faire reposer sur chacun d'entre nous. Et on ne parle plus de la harpe. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui s'exprime. Que Dieu soit béni. Ainsi parle l'Éternel. Et je termine, mes frères et mes sœurs, en mentionnant trois messages que la parole de Dieu va faire entendre. Pourtant, je l'ai dit, le roi Joram, c'était vraiment quelqu'un d'infidèle, d'abject. Ce roi Josaphat, qui ne tire pas les leçons de ses échecs passés et qui commet encore les mêmes erreurs. Et puis, ce contexte, voyez-vous, de guerre, tout ça, c'est du négatif. Malgré tout ce contexte négatif, la parole de Dieu se fait entendre. Il y a trois messages. Un message de miracle, un message de bénédiction et un message de victoire. Message de miracle. Ainsi parle l'Éternel au verset 17. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau. C'est un miracle. Gloire à Dieu. Tous les services de la météo à l'époque ont été sidérés. Vous voyez ? Pas de vent. Pas de nuages, pas de perturbations, pas de cyclones, rien. Et brusquement, une vallée aride se remplit d'une abondance d'eau vivifiante. Voilà notre Dieu. Voilà le Dieu de l'église d'Aubagne. Le Dieu des miracles. Il n'a pas besoin de pronostics rationnels, des experts, des techniciens. Il est le Créateur. Il dit et la chose arrive. Et donc, nous devons laisser le Seigneur hisser notre foi dans cette dimension du Dieu qui fait des miracles. Amen. Du Dieu à qui rien n'est impossible. Mon frère, ma sœur, dans tes combats personnels et l'Église en tant que communauté, dans nos besoins en commun, plaçons notre espérance dans le Dieu qui fait des miracles. Attendez-vous aux miracles de Dieu, au pluriel. Lorsque vous êtes dans votre sphère personnelle ou dans l'exercice d'un service dans l'Église, vous apportez l'Évangile aux enfants, vous vous occupez des ados, vous faites votre service dans l'Église, attendez que le miracle de Dieu accompagne votre service. C'est la volonté de Dieu. Il annonce un miracle imminent. Oh, moi, je prie pour que la ville d'Aubagne et le pays d'Aubagne soient remplis de cette eau vivifiante de la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse au-delà même de ce que nous pourrions espérer, même si nous espérons déjà, mais que Dieu nous émerveille en plus. Gloire à Dieu. Que lors de nos cultes, nous puissions voir venir comme cela des familles entières, des gens qui sont là dans une détresse et que le Saint-Esprit va visiter, bénir et introduire dans le salut du Seigneur. Deuxièmement, en plus du message de miracle, un message de bénédiction. Vous boirez. Amen. J'espère que vous buvez, hein. Gloire à Dieu. Vous boirez. C'est une parole courte, mais c'est un programme merveilleux. À des personnes qui sont en train de s'éteindre, de mourir, de s'anémier, Dieu annonce une parole de bénédiction. Je suis heureux de te dire, mon frère, ma sœur, que le désert que tu traverses n'est pas pour ta perte, mais le désert que tu traverses peut devenir le lieu témoin de la bénédiction abondante que Dieu promet de déverser. Amen. Dans ton désert, bois cette eau fraîche. Cette eau que Jésus a promise à la Samaritaine, vous connaissez cette merveilleuse histoire. Vous boirez. Je ne suis pas appelé à simplement rester sur une chaise et à voir les autres boire et moi me priver. Mais mon Dieu veut m'introduire dans cette abondance de bénédictions. Mon frère, ma sœur, bois et viens assimiler en abondance cette vie de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, cette fraîcheur intérieure, que tout ton être, chaque cellule de ton âme soit revitalisée. Alléluia, gloire à Dieu, vous boirez. Et puis je termine, le troisième message, c'est un message de victoire, vous frapperez toutes les villes fortes, etc., etc., un message de victoire. Les choses vont de plus en plus mal autour de nous. Nous voyons les ténèbres s'épaissir et l'adversaire déchaîner sa fureur. Mais le message que Dieu adresse à son Église demeure un message de victoire. Les addictions modernes, la toxicomanie, l'extrémisme, les violences caractérielles, les actes désaxés, même criminels, des élèves qui agressent des adultes, des professeurs, des choses qui meublent notre actualité quotidienne ne sont pas une fatalité Parce que Dieu, par l'évangile que l'Église peut annoncer, a le pouvoir de remporter une victoire. Le royaume de Dieu est appelé à vaincre de la puissance des ténèbres. Et je prie pour que des bastions d'incrédulité s'effondrent, pour que des haines soient extirpées. Je prie pour que des formes d'esclavage dur soient totalement transformées. Je suis venu pour annoncer aux captifs la liberté. C'est une victoire, cela, n'est-ce pas? Eh bien, que le Seigneur nous donne de vivre ces choses, frères et sœurs. Et s'il y avait parmi nous, en particulier, quelqu'un qui aurait besoin dans sa vie personnelle de victoire, la victoire dans ta vie fait partie des promesses que Dieu adresse à ses enfants. Il ne t'appelle pas à subir impuissamment tes difficultés, mais il t'annonce la victoire. Et puis tout cela a pu se concrétiser à un moment particulier, puisque le verset 20 nous dit « Le matin, au moment de la présentation de l'offrande, et ça c'est déjà une annonce de la croix de Jésus, à ce moment-là, l'eau arriva. » Gloire à Dieu, hein? L'eau arriva. Je parlais du Dieu des miracles, mais c'est comme ça. L'eau arriva. Sans nuages, sans pluie, l'eau arriva. Et elle arriva de la direction de laquelle on l'aurait surtout pas attendu, la direction du midi, la direction du désert, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Et tout ce que nous pouvons vivre en bénédiction et en victoire découlera toujours du sacrifice de Jésus, parce qu'il a tout accompli. En 2023 encore, coule de son sacrifice ce flot de bénédictions. Ça serait difficile et dommage de passer à côté de ce programme d'abondance que Dieu tient en réserve pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous proposer un bref moment de prière. Revenir un moment sur les différents états dans lesquels les cordes que nous sommes peuvent se trouver. Dans quel état te trouves-tu? Est-ce que tu es une corde sous-tendue, sur-tendue, abîmée? Il y a ici le divin harpiste. Le Saint-Esprit veut faire de toi une corde en bon état, afin de pouvoir disposer de ta vie et de la vie de tes frères et sœurs, pour que vous puissiez ensemble former cette harpe qui va émettre le son de l'Évangile, le beau message de l'espérance en Jésus-Christ. Qui est fatigué? Qui est lassé? Eh bien, ce matin est un moment de grâce que Dieu t'accorde afin de te renouveler. Qui est surtendu? Qui est habité de dispositions intérieures acerbes, amères? Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut apaiser tes émotions, rectifier tes pensées. Qui a été abîmé? Qui a besoin de réparation? Présente ton cœur au Seigneur. Il va réparer ton âme, réparer ton zèle, réparer ta joie, réparer ta communion avec lui et ta communion avec tes frères et tes sœurs. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur,